Alors, bien-aimés, rappelez-vous, dimanche, mardi dernier, nous avons commencé un enseignement et j'avais dit que je vais continuer aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni mardi dernier? Alléluia. Alors, mardi dernier, nous parlions de faire face aux batailles étranges. Faire face aux batailles étranges. Alléluia. Alors, revenons encore dans nos deux textes que nous avons lus la dernière fois. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, 12, 10 ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Ce n'est pas notre céleste que nous connaissons, c'est le céleste au ciel. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 32. S'il te plaît, tu peux réduire ton piano? Merci. 1 Corinthiens 15, 32. Je peux dire 1 Corinthiens 15, 32. Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi les batailles étranges? Nous avons essayé de comprendre ce que ça veut dire étrange. Le mot étrange, dans ce contexte, fait référence à quelque chose de bizarre, à quelque chose d'inexplicable, à quelque chose d'inhabituel, à quelque chose de surprenant, à quelque chose d'anormal, à quelque chose d'incompréhensible. Alléluia. Quelque chose dont nous n'avons pas la compréhension évidente. Et nous avons vu que les batailles étranges étaient des batailles qui ne nous sont pas familières et auxquelles nous ne sommes pas habitués et que nous ne comprenons même pas le sens. Alléluia. Et nous avons dit que les batailles étranges, c'est comme lutter avec des ombres, comme nous le voyons dans Éphésiens 6, 12. Il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Il nous parle des batailles avec des entités spirituelles. Alléluia. Avec des entités spirituelles. Et les victimes de telles batailles ne savent pas pourquoi, comment et quand elles ont commencé ou quand elles se sont engagées dans ces batailles. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Alléluia. Job ne savait pas qu'il était l'enjeu d'une grande bataille. Alléluia. Job subissait les batailles autour de lui. Job vivait les batailles, mais il ne savait pas qu'il était au cœur d'un enjeu stratégique mondial. Alléluia. Et cela se tenait dans le conseil de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas certaines batailles qui obscurent, qui entourent leur vie, parce que ce sont des batailles qui sont établies depuis le conseil de Dieu. Alléluia. Et donc nous subissons en quelque sorte, et donc nous le vivons au quotidien. Et l'apôtre Paul va même aller plus loin dans le livre des 1 Corinthiens que nous avons lu, le verset 15, le chapitre 15 au verset 32, en nous expliquant qu'à Éphèse, il a même combattu des bêtes, des animaux. Quelles étaient ces bêtes? Quels étaient ces animaux? Alléluia. Donc Paul a fait face, c'est-à-dire Paul n'a pas fait face qu'aux hommes, il a fait face aux animaux, aux bêtes. Alléluia. C'était des entités auxquelles il pouvait donner que des noms selon sa compréhension. Il s'agissait ici simplement des puissances maléfiques étranges. Et il n'y a pas de mots pour les décrire, car leur mode de fonctionnement est celui des animaux, est celui des bêtes. Alléluia. Est celui des bêtes. Amen. Donc, nous avons vu que même Job, à son moment, a combattu également ces genres de batailles, au point où il a dit dans Job 14, verset 1, que la vie d'un homme est pleine d'ennui et d'agitation. Alléluia. La vie d'un homme est pleine d'ennui et d'agitation. Et il est donc important que nous comprenions certains faits concernant les batailles. Si nous devons traverser cette vie périlleuse et pleine d'ennui, nous devons comprendre les batailles. Amen. Alors, les comprendre, c'est au travers de plusieurs faits. Le premier fait que nous avons essayé de comprendre, d'étudier, c'est le premier fait est que notre parenté détermine dans une large mesure les batailles auxquelles nous sommes confrontés, les batailles que nous menons. Notre parenté, quand nous parlons de parenté, nous parlons de fondation, nous parlons de lignée familiale. Alléluia. Si par exemple vous venez d'une famille pieuse, il y aura probablement moins de batailles à mener. Mais si vous venez d'une famille qui a pratiqué l'idolâtrie, alors vous devez vous attacher et vous préparer à la guerre. Alléluia. Parce que la situation est encore pire si vous êtes le premier-né de la famille. Alléluia. Lié à cette maison-là. Le deuxième fait que nous avons essayé d'étudier, bien-aimés, c'était que la solution à toute crise est dans la crise. Amen. La solution à toute crise est dans la crise. En d'autres termes, dans tout désavantage, il y a un avantage. Hello. Dans tout désavantage, il y a un avantage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher à l'intérieur de la crise. Vous découvrirez la solution. Le troisième fait que nous avons étudié, bien aimé, c'est qu'on ne choisit pas ces batailles. Ce sont les batailles qui nous choisissent. Alléluia. Ce sont les batailles qui nous choisissent. Beaucoup d'entre nous n'ont pas choisi les batailles qu'ils mènent aujourd'hui. Notez que les batailles dans la vie sont d'abord inévitables. Alléluia. Sont inévitables. Nous le disons vulgairement au quartier, la vie est un combat. Alléluia. Autrement dit, quel que soit le niveau de vie où tu es, quel que soit le cadre de vie dans lequel tu nais, il y a une bataille à l'intérieur. Il y a une bataille qui t'attend. Il y a la bataille qui est liée à la vie du pauvre. Il y a la bataille qui est liée à la vie du riche. Alléluia. Tout le monde a sa bataille selon le niveau où il se trouve. Alléluia. C'est pourquoi lorsque beaucoup de gens s'asseyent et regardent les autres et selon leur position financière, matérielle, ils estiment que leur bataille est moins que la mienne. C'est parce que tu ne vis pas sa vie. Amen. Tu ne vis pas sa vie. Si tu vis sa vie, tu vas réaliser qu'il y a un prix à payer dans chaque contexte de vie dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Alors, chaque homme à un moment ou à un autre mène une bataille. Cela peut être dans le domaine des finances, cela peut être dans le domaine de la santé, du mariage, du fruit des entrailles, de la carrière, du ministère, de l'épanouissement socio-spirituel, de l'épanouissement socio-psychologique. Alléluia. Vous allez voir des gens qui ont tout dans la vie, mais ils ne sourient jamais. Toi, quand tu le vois, tu dis, mais tu ne comprends pas ton problème. Avec tout ce que tu as, tu n'es pas heureux. Tu ne comprends pas. Amen. J'ai vu des cas comme ça. Des gens qui avaient tout, mais n'étaient jamais heureux. N'étaient jamais contents. Ils souriaient jamais. Vous voyez que son problème est ailleurs que dans ce qu'il a comme argent, que dans ce qu'il a comme voiture, que dans ce qu'il a comme grosse maison. Son problème est ailleurs. À côté de là, il y a quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'a pas de voiture. Tout son problème, c'est avoir une maison, c'est avoir une voiture. C'est ça qui fait qu'il n'est pas heureux. Alléluia. L'autre, il a tout, mais il n'est pas heureux. Amen. Celui qui n'a pas ça, son problème de bonheur est lié à la maison, est lié à l'argent. L'autre, à la voiture. L'autre, à côté, son bonheur est lié au fait que s'il a la maison, s'il a la voiture, bon, même s'il n'a pas mari, ça va aller. Alléluia. À tous les niveaux de la vie, il y a une bataille. Alléluia. Il y a une bataille. Ensuite, bien-aimés, nous avons vu que les batailles sont la semence de la promotion. Alléluia. Beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est au travers des batailles que naissent les généraux. Il n'y a pas de général sans guerre. Il n'y a pas de général sans guerre. Il n'y a pas de maçon sans expression de sa maçonnerie au pied d'un mur. Alléluia. Il n'y a pas de cuisinier sans application dans une cuisine. Alléluia. Il ne suffit pas de se lever. Ah, moi, je suis un grand cuisinier. Comment on sait? Alléluia. Vous voyez? Beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation. Alors, aujourd'hui, de nombreuses personnes sont impliquées dans une bataille étrange ou une autre. Beaucoup sont morts au cours de ces batailles, tandis que d'autres sont encore à la recherche d'une solution. Et donc, nous avons continué à étudier les faits. Les faits. que nous devons connaître sur les batailles étranges ou pour nous aider à les surmonter. Nous avons vu, par exemple, que notre destinée, plus notre destinée colorée, plus les batailles que nous aurons à mener seront importantes. Amen. Plus notre destinée colorée, plus les batailles auxquelles nous serons, plus les batailles que nous aurons à mener seront importantes. Nous avons vu Joseph, par exemple, qui a reçu la tunique à plusieurs couleurs, qui était l'expression de toutes les grâces que Dieu avait déposées dans sa vie. Mais nous avons vu Joseph qui a dû passer par 13 années de batailles intenses avant de pouvoir fêter ses 80 ans au sommet de sa destinée. Vous voyez? Si vous étudiez la vie de tous ces héros de la foi, vous verrez qu'il n'y a personne là-bas qui n'a pas fait en moyenne 10 ans dans sa bataille. La base est au moins 10 ans. Au moins. David a fait 15 ans d'exil avant d'être reconnu roi. C'est-à-dire qu'il était au moins à 15 ans, mais pour s'asseoir sur le trône, il a attendu 15 ans. Donc, il ne suffit pas d'avoir une onction, l'onction sur ta vie. Il ne suffit pas d'avoir été recommandé pour avoir cette chose. Il y a une bataille dans chaque niveau de gloire. Il y a une bataille dans chaque niveau de gloire. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Je vous ai dit que il y a l'histoire de tout le monde ici a connu des batailles. Tout le monde ici, tout le monde. Il y en a encore dans les batailles, dans les mêmes batailles. Et ça date depuis que tu pries, ah Seigneur, jusqu'à quand? Compte. Abraham a fait 25 ans de bataille. C'est à la 24e année que Dieu est venu lui dire, écoute, l'année prochaine, on va conclure l'histoire-ci. Alléluia. À la 24e année. Chaque année, le Seigneur lui rappelait, lui renouvelait la promesse. Tu seras fécond, tu auras les enfants. Amen. Amen. Et chaque année, il se réveille, il dit, c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année de fécondité, de jumeaux, de triplés. Je dis, OK. La bataille. 25 ans d'épreuve de la foi. Quelle est ton épreuve? Beaucoup d'entre nous, après quelques temps, on pleure dans tous les sens. On rase même nos têtes. C'est la bataille. Amen. Rappelez-vous toujours ceci. Dieu est l'Éternel des armées. Et en tant qu'Éternel des armées, il donne naissance à des guerriers. Et tout guerrier ne revient jamais sans des blessures. Ça va, tu t'es couché quelque part. Amen. Regardez tous les hommes qui vont à la guerre aujourd'hui. Même s'ils n'ont pas de blessures physiques, ils en ont intérieurement. Amen. Ils en ont intérieurement parce que vivre les horreurs de la guerre, ça transforme un homme. Ça le rend même fou. Prendre la vie de quelqu'un, ça te rend fou. C'est pourquoi dans des pays développés, quand les hommes rentrent de guerre, ils doivent suivre une thérapie. Ils doivent suivre une thérapie parce que ça transforme. Alors, en tant que guerrier, tu dois avancer. Alléluia. Et ce sont tes blessures qui deviennent la guérison de ceux qui te suivent. Jésus a dit par ses maîtrises, nous sommes guéris. Alors, par tes maîtrises, tu apporteras la guérison, la sagesse, l'orientation à d'autres qui vont passer par ce chemin. Alléluia. Voyez quelqu'un qui n'a jamais échoué en classe. Le jour qu'il échoue, il va se coucher sur la route. Amen. Mais celui qui a quand même de temps en temps échoué avant de se relever, amen, c'est tranquille. Amen. Il retrousse seulement les manches et il avance. Alléluia. Quelqu'un a échoué comme ça et puis il a dit non, il veut mourir. Un monsieur est parti, il a dit que qu'est-ce qu'il ne va pas? Il veut se tuer. Il dit attends. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai échoué, c'est la fin du monde, c'est pas normal. Il dit, assois-toi, je vais te raconter mon histoire. Quand il a fini de lui raconter toutes les situations par lesquelles il passait, ce jeune homme s'est levé, il a dit, je me repens. Parce qu'il s'est rendu compte que il n'avait pas compris la vie. Amen. Amen. La vie, c'est les hauts et les bas. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne vivent que dans les bas. C'est aussi dangereux. Il faut vivre dans les hauts et les bas. Si tu ne vis que dans les bas, tu vas vivre dans la tombe. Si tu ne vis que dans les hauts, tu es un candidat au suicide. Cette mixture-là te rend stable. Amen. Un peu d'échec, un peu de réussite. Quand tu réussis seulement, tu crois que tu es un Dieu. Et quand tu échoues, tu réalises que tu n'es qu'un homme et que tu as besoin de plus que ce que tu croyais avoir eu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'histoire de chacune de nos vies est une pièce incroyable qui peut garder tout le monde dans l'admiration de notre grand Dieu. Je partageais le témoignage d'une dame hier à l'apôtre Robert. Il était avec moi hier. On passait un après-midi de partage ensemble. Et je lui racontais l'histoire de cette femme qui a fait 14 enfants sans entrailles. Amen. Ce n'est pas qu'elle avait perdu ses entrailles. Ce n'est pas qu'on l'avait opérée. Elle n'avait pas d'entrailles. Le médecin a dit, j'ai jamais vu. Le médecin lui a dit, je n'ai jamais vu une femme qui est née sans entrailles. Elle dit, ah, je ne sais pas, je suis née comme ça. Et Dieu lui a donné 14 enfants, 14, qui étaient fécondés dans la main. Le médecin dit que quand il regardait l'échographie, il voyait la main d'une personne. L'enfant était dans la main d'une personne. Alléluia. Et cette femme a été ébouillantée avec de l'eau chaude par sa belle-mère pour la chasser. Et c'est quand elle a versé l'eau chaude qu'on l'a amenée en réanimation. Et elle a laissé là, la peau sauter. Elle pleurait. C'est la voisine qui l'a amenée à l'hôpital. Quand elle est sortie de l'hôpital et rentrée chez elle, personne n'avait son temps parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et elle pleurait. Et c'est dans cet état-là que le Seigneur l'a visitée. Alléluia. C'est dans ce gémissement-là. Mais c'est en passant par là qu'elle peut aujourd'hui dire à une femme que quelle que soit l'attente dans tes entrailles, Dieu est capable de t'en donner. Elle dit, Dieu ne m'a pas donné un, il m'en a donné 14. Toute sa belle famille, sa famille, ils ont donné leur vie à Jésus à cause de ça. Alléluia. Je prie pour toi. Tes batailles seront ta couronne. J'ai dit, tes batailles seront ta couronne. J'ai dit, tes batailles seront ta couronne. J'ai dit, tes batailles seront ta couronne. Tes batailles seront ta couronne. Au nom de Jésus. Parfois, nous vivons certaines choses et nous perdons le temps. Dit, pourquoi je vis ça? Pourquoi moi? Tu perds du temps. Tu perds du temps. C'est la bataille. Si tout le temps, un guerrier est à la guerre, il se pose la question, pourquoi mon ennemi la bataille? Pourquoi il veut me tuer? Mais on va le tuer. Parce que le temps de se poser des questions, il se rend vulnérable. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la guerre. Tu avances. Dis à ton voisin, tu avances. Alléluia. Un autre fait à noter, bien-aimé, je crois que nous l'avons dit, c'est que les batailles spirituelles ne sont jamais terminées dans la vie. Oui. Lorsque vous vous élevez à un niveau supérieur, vous devez savoir qu'à ce niveau supérieur, il y a un nouveau démon qui vous y attend. Alléluia. À chaque niveau d'élévation, il y a un nouveau niveau de diable qui t'attend là-bas. Alléluia. Je prends un exemple. Tu pries, tu jeûnes pour le travail. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu te donne le travail. La porte s'ouvre, tu as le travail. On te donne le travail, tu signes un bon contrat. Premier mois, tu touches ton salaire. Deuxième mois, le salaire n'est pas plus normalement. Voilà un autre combat, non? Alléluia. Tu commences encore à gêner pour que Dieu touche le cœur du patron, qu'il paye ton salaire normalement. C'est des jours et des jours de jeûne et de prière. À peine tu arrives au niveau là, pap, tu dis, je dois me marier. Tu prie pour que Dieu te donne la bonne personne. Tout le monde arrive devant toi, c'est Mami Wata. Mami Wata, Mami Wata, tu ne comprends rien. Alléluia. Mami Wata, ça glisse seulement. Tu dis, non Dieu. Hier, tu étais dans le monde. Tu prenais tout le monde. Pop, 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 pop. Tu ne triais pas. Alléluia. Tu ne triais pas. Maintenant, tu es dans la maison de Dieu. Tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir le bon choix. Ça devient compliqué. C'est encore un autre problème. Au moment où tu trouves la bonne personne, vous entrez dans le foyer. Un an, deux ans, trois ans, on ne fait pas « ouais » dans la maison. Oh, c'est encore un autre problème. Il faut encore jeûner. Vous voyez, à chaque niveau, il y a un nouveau niveau de démon. Une nouvelle subtilité démoniaque qui t'attend là-bas et qui te dit « bienvenue, bienvenue ». On reprend à zéro. Alléluia. Alléluia. Donc, vous comprenez que les batailles spirituelles ne sont jamais terminées dans la vie. Il n'y a pas un lieu où tu vas dire non, je me repose. C'est bon, j'entre dans ma saison de repos. Bien aimé, ce n'est qu'un mot. Vous savez, quand on parle de saison de repos, ce que ça veut dire? Écoutez, dans le désert, il y a des lieux qu'on appelle les oasis. Les oasis, ce sont des zones de fraîcheur. Mais tu ne peux pas rester dans un oasis toute ta vie. Amen. Parce que les ressources là-bas sont limitées. Les ressources là-bas sont limitées. La saison de repos, c'est un peu comme cette oasis qui te permet de récupérer assez de force, de repartir. Mais si tu restes là-bas, tous les problèmes vont commencer. C'est pourquoi vous allez constater que dans le désert, étudier la vie des enfants d'Israël dans le désert, c'est quand ils arrivaient dans un oasis et qu'ils cherchaient à se coucher pour longtemps, les problèmes venaient. Murmure, lamentation, mort. Et Dieu dit, un jour le Seigneur va dire, vous êtes trop longtemps resté sur cette montagne. Il dit à Moïse, dis au peuple, levez-vous et avancez. C'est-à-dire, les gars avaient même dépassé le calendrier. C'était une semaine, ils ont fait deux mois. Alléluia. Et quand vous voyez ça, vous comprenez pourquoi ils ont fait pas seulement 40 ans. Il y a des gens qui sont supposés rester à des niveaux de 2 ans. Mais ils font 10 ans là. 10 ans là. Alléluia. Parce que la personne ne comprend rien. Elle croit que c'est sa saison de repos. Oui. Bien aimé. Aucune personne avec qui nous marchons ou nous allons nous associer sera de tout repos pour nous. Non. Le repos se travaille chaque jour. Chaque jour. Alléluia. Et un autre point, un autre fait, bien-aimé, c'est que si vous restez dans un environnement fou, vous devez être fou vous-même. Alléluia. Sinon, l'ennemi vous détruira. Lorsque vous ne pouvez pas être normal, lisez la Bible normalement, priez normalement et s'aimez normalement. Non, la Bible dit que l'homme spirituel est un fou. De même, si vous restez dans un environnement spirituellement violent, vous devez aussi être spirituellement violent. Sinon, l'ennemi utilisera votre tête comme tambour dans son sanctuaire. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, c'est la guerre. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, ta grâce. Donne-moi la grâce de vivre. Non, c'est la guerre. Lève-toi et prie. Tu dors et l'ennemi vient se livrer. Matthieu 11, 12, le Seigneur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, bien-aimé, il y a une nouvelle réalité spirituelle qui s'est imposée dans la vie des hommes. C'est la guerre. C'est la guerre. Jean-Baptiste est venu inaugurer une nouvelle génération de guerriers. Alléluia. Et toi, tu as été recruté dans cette nouvelle armée-là. Et chaque nuit, tu dors, tu dis non, la grâce de Dieu me couvre. La grâce de Dieu me couvre. La même nuit, tu finis la prière, tu te couches, couches de nuit, repas de nuit. Alléluia. Voyez. Et bien aimé. Un autre fait, c'est que certains événements dans la vie d'un homme indiquent s'il mènera d'étranges batailles. Il y a des indications dans la vie qui indiquent que ta vie, là où tu fonctionnes, tu vas vivre des situations pas du tout correctes. Ce sont des indications, des causes probables des batailles étranges. Et la première, bien aimé, de tout cela, de toutes ces indications, nous l'avons vu pendant les 40 nuits, la question du placenta. Amen. La question du placenta. Vous devez faire très attention à la personne qui manipule ou qui a manipulé le placenta de vos enfants ou de vous-même à la naissance. Alléluia. Un pasteur raconte l'histoire d'une jeune femme qui devait se marier pendant un bon moment, qui était dans l'attente du mariage pendant plusieurs années, pleurant chaque jour. Et un jour, elle est allée voir son pasteur dans un état de frustration. Après d'intenses prières, le pasteur lui a dit d'acheter un cadeau et d'offrir à sa grand-mère. Elle n'a pas compris. Mais elle a obéi. Il lui a dit de l'offrir à sa grand-mère puisque sa propre mère était décédée depuis longtemps. Lorsqu'elle a présenté le cadeau, comme le lui avait demandé son pasteur, elle a demandé à sa grand-mère de lui raconter ce qui était arrivé à son placenta à la naissance. Alors sa grand-mère a souri. Elle a souri méchamment. Elle a montré là où le placenta avait été approché. Son placenta avait été séché et attaché autour de sa taille. Elle avait séché le placenta de sa petite fille et elle a fait comme une corde, elle a attaché autour de son rein et elle marchait avec chaque jour. La destinée de cette femme était restée accrochée à la taille de la grand-mère pendant toutes ces années. Oui, mes bien-aimés. Il y a des réalités étranges. Lorsque tu comprends ces choses, tu comprends pourquoi tu vis des batailles étranges. Alléluia. Je prie pour toi. Tous ceux qui ont attaché leur destinée, tous ceux qui ont attaché ta destinée à leur taille, à un arbre ou au village, qui reçoivent le feu au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, les batailles dans la vie sont inévitables. Nous avons dit la première cause probable à ces attaques, à ces batailles, c'est quoi? La question, le problème du placenta. Oui, bien-aimé. Parfois, l'euphorie de l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille fait que beaucoup de parents négligent la façon dont le placenta est traité. Alléluia. On est tellement heureux d'avoir le bébé, mais on ne maîtrise pas. Tandis que les personnes malveillantes de la famille en profitent pour soutirer la partie la plus importante dans la vie de l'enfant. Son placenta, son cordon ombilical. Beaucoup de destinées ont été tronquées aujourd'hui à cause des problèmes de placenta. Une autre cause ou indication que nous courons dans des problèmes étranges, bien-aimés, c'est que vous allez mener des batailles étranges et que la personne qui vous a donné est votre est l'identité de celui qui vous a donné votre premier bain. Amen. L'identité de celui qui vous a donné votre premier bain. Alléluia. Oui. La personne qui vous a donné votre premier bain à la naissance influencera votre vie. Un pasteur racontait le témoignage d'une de ses filles dans le Seigneur qui a tenté à plusieurs reprises de voyager à l'étranger en vain. Un jour, alors qu'il la faisait prier intensement, une voix s'est élevée en elle. Prétendant être la sœur aînée de sa mère, elle a avoué qu'elle avait pris la première eau de bain de la fille à la naissance et qu'elle avait enfermée dans une bouteille depuis lors. Ce sont des histoires étranges. C'est pourquoi quand tu es enceinte, quand tu es une maman et que tu vas à l'accouchement, tu dois prier pour tous ceux qui vont intervenir dans la procédure de l'arrivée de ton bébé. Alléluia. La maman a l'enfant emmailloté dans un linge, n'est-ce pas? Au moment où l'enfant sort, l'enfant est taché de sang. On le nettoie. Qui nettoie? Qui nettoie? Si la personne n'a pas de bonnes intentions. Est-ce que vous savez qu'en Autriche, on met les puces dans la vie des bébés? C'est-à-dire quand l'enfant naît, il sort du ventre de sa mère, on le prend, on part dans une salle, on le nettoie, et puis on l'ingère une puce dans le corps. Et c'est reconnu. L'enfant naît avec la puce 666 dans son corps. C'est dans la loi. Alléluia. Ton enfant va être comment? C'est compliqué, les amis. Le monde s'y est compliqué. Pendant que les blancs font ça, une puce que tu peux tracer avec un téléphone, amen, ils disent que à cause des vols de bébés, on va pouvoir tracer si ton bébé disparaît. Oh, c'est faux. C'est les raisons pour mettre les enfants dans certaines possibilités. Mais on met une puce, n'est-ce pas? Chez nous, ici, on ne met pas la puce. Là, ils ont une autre puce. Nous, on a l'ancienne technologie. Alléluia. On n'est pas dans les 500 gigas égale 32. Amen. On est dans l'ancienne technologie. Et ça fonctionne encore. Alors, si quelqu'un te touche, les premières mains qui te reçoivent, si elles ne sont pas correctes, elles affectent ta vie. Alléluia. Alléluia. Une sorcière, une tante sorcière se vantait d'une femme qu'elle ne se marierait jamais et qu'elle ne trouverait jamais aucune solution à son problème. Où qu'elle se trouve. Et cette femme est allée voir un pasteur qui a prié avec elle. Et la bataille était où, bien-aimée? Cette tante se vantait parce que l'eau qui avait été utilisée pour la laver, la tante l'avait récupérée. Et avait maudit sa vie à partir de ça. Bien-aimée, nous devons être vigilants dans la vie. Ce que je nous partage, ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour ouvrir nos yeux. À être plus vigilant. Alléluia. Et à comprendre que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde normal. N'est pas un monde normal. Ça n'a rien de normal. C'est pourquoi nous vivons des expériences étranges que nous ne pouvons pas expliquer. Alléluia. Il y a des gens qui s'élèvent de leur lit depuis 5 ans, 10 ans. Ils trouvent toujours des griffures sur leur corps. Ils n'expliquent pas. Ils ont prié toutes sortes de prières. Mais chaque matin, le lit est taché de sang. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu te fait grâce et te le révèle par quelqu'un ou bien par toi-même. Ce jour-là, tu comprends pourquoi ta vie est comme elle est. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, la plupart du temps, nos adversaires ne sont pas loin de nous. La plupart du temps, nos adversaires ne sont pas loin de nous. Ils sont proches de nous. Jésus va le dire d'ailleurs, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alléluia. Et bien aimé, je prie pour toi, afin que tout contenant maléfique qui retient ta destinée se disperse au nom de Jésus. 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 Quel que soit le lieu où tu as été attaché, je déclare que Dieu suscite quelqu'un pour te libérer au nom de Jésus. 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 Il y a quelques années, un homme de Dieu a été invité à prêcher lors d'un service de nuit, de prière. Il s'est mis en route vers la destination tard dans la soirée. Et en cours de route, son véhicule a eu un problème. Pendant qu'il attendait que le radiateur chauffé refroidisse, il s'est endormi à l'intérieur de la voiture à minuit. Et soudain, il a été réveillé par une voix lointaine. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'agissait d'un homme tenant une chèvre noire à un carrefour situé à une certaine distance. Et il observa tranquillement ce que faisait l'homme dans cette nuit sombre et étrange. Alléluia. Il était à une certaine distance et il voyait l'homme au carrefour avec sa chèvre. Et l'homme croyait aussi que c'était une voiture qui était garée, il n'y avait personne. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et l'homme faisait quelques incantations en prononçant le nom Jacques. Jacques, à plusieurs reprises. Une corde à la main, il attachait les mains, les jambes et la bouche de la chèvre, en déclarant que tout comme la chèvre est attachée, Jacques restera attaché à vie. Il ne pouvait ni prier, ni parler. Il ne progressait. Il ne pourra ni prier, ni parler. Il ne progressera pas dans la vie. Et si une voiture écrasait cette chèvre, Jacques mourrait aussi prématurément. Donc la vie de Jacques était liée à la vie de la chèvre. Et lorsque l'homme est parti, le pasteur s'est rendu compte que la destinée de quelqu'un était en jeu. Et que Dieu l'avait probablement placé là, ce soir-là, pour aider cette personne. Alléluia. Et immédiatement après le départ de l'homme, le pasteur a couru vers la chèvre et l'a tenue. Il a dit, qui que tu sois, Jacques, je ne te connais pas. Mais au nom de Jésus, je te libère de tout mal qui a été fait contre toi. Je ne sais pas avec quoi on t'a identifié dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas avec quoi on a identifié une partie de ta vie, une partie de ton corps, une partie de ta destinée. Je tiens au nom de Jésus. Délier ta vie au nom de Jésus. Délier ta destinée au nom de Jésus. Délier ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu avanceras. Je déclare que tu réussiras. Je déclare que tu prospéreras. Je déclare que ta vie va exploser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas être témoin d'une nouvelle aube dans la vie sans s'engager dans des batailles étranges. Je répète, on ne peut pas être témoin d'une nouvelle aube dans sa destinée sans s'engager dans des batailles étranges. Rappelez-vous de notre bien-aimé Jacob. Pour qu'il puisse entrer dans sa destinée, Jacob a mené une bataille de nuit. Alléluia. Jacob a mené une bataille jusqu'au lever du jour. Et c'est au lever du jour qu'il a compris que si cet homme part, ma vie va rester la même. Alléluia. Il a attrapé le type, il a dit que je ne te laisserai partir si tu ne me bénisses. C'est comme ça que sa vie a connu un tournant décisif. Mais, bien aimé, la Bible dit que Jacob s'est retiré
Et un homme est venu lutter avec lui. Qui était cet homme? Comment, bien aimé? Attendez. Papa Emma est ici. Il marche. Quelqu'un sort de nulle part, il engage la bagarre. Mais la première chose que papa Emma va dire, mais c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Je t'ai fait quoi? Explique-moi. Alléluia. Le gars a engagé la bagarre. La Bible dit jusqu'au lever du jour, il ne faisait que bagarrer. Vous savez, à une certaine époque, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Avant, quand il fallait bagarrer, tu devais bagarrer. Quand quelqu'un te déclarait la bagarre au quartier, partout, il te voyait pour bagarrer. Amen. On ne veut plus ça. Même à l'école, on disait vendredi bagarre. C'était la bagarre, c'était les vendredis au lycée. Et on montait au stade. Tu bagages jusqu'à ce que tu dis que c'est bon. Est-ce que quelqu'un a vécu ça? Alléluia. Tu bagages jusqu'à ce que tu dis que c'est bon. Tu m'as tapé. Et lundi, on publiait dans tout le lycée. Quand on l'a tapé. Alléluia. On l'a allumé. Il y avait une camarade. Elle aimait la bagarre. Elle avait la force d'un homme. Et quand on avait les bagarres, ils venaient payer pour bagarrer pour nous. Alléluia. Vendredi, elle part. Elle tapait les garçons. C'était une humiliation. Une fille te tape. Mais ton nom est fini au lycée. C'est fini. Tu vas redire que quoi? Tu vas plus rien dire. Alléluia. Et je me souviens dans mon quartier, il y avait un jeune homme qui bagarrait. Lui, quand il te provoquait, bien aimé, c'est un mois de bagarre. Un mois. Un mois. Tu dis même c'est bon, il dit non. Non. On l'appelait tête de fer. C'était un gars étrange. Lui, quand il te prenait comme ça, dans la bagarre, il te prend, bam, tu t'évanouis. C'était fini. C'était fin du film. Alléluia. Sa tête était à éviter. Peut-être il y avait le remède dessus. Maintenant, je me pose les questions. Peut-être il y avait le remède sur la tête là. C'était pas normal. Bam! Donc, il fallait éviter sa tête. Et tu ne peux pas éviter. Il encaissait, il savait encaisser. Et tout ce qu'il faisait, c'était qu'il faisait tout pour t'attraper. Bam! C'est fini. Ta mâchoire va à gauche. Alléluia. Ta mâchoire va à gauche. Alléluia. Donc, c'était un peu ça avec Jacob. Un homme sort de nulle part. Pam, pam, pam. David, Jacob comprend que ça, c'est une bataille que je n'ai pas provoquée, mais je dois la gagner. Il y a des batailles qui s'imposent à ta vie, bien-aimé. Tu n'es pas la cause, mais tu dois la gagner. Tu dois la gagner. Et Jacob a bagarré. Lorsque le jour est arrivé, l'homme a dit que mon type, c'est là, bon, ça va. Laisse-moi partir. Il dit que je ne sais pas pourquoi tu es venu. Je ne sais pas qui tu es. Mais à l'heure ci, tu ne peux pas traverser ma vie comme ça et me laisser dans les problèmes. En réalité, cette personne est venue juste montrer que Jacob menait cette bataille depuis longtemps. Alléluia. Beaucoup d'entre nous menons des batailles étranges chaque jour. Et nous n'arrivons pas à réaliser comment ça se passe pour que nous soyons là où nous sommes. Paul dit qu'il a lutté avec des bêtes. 1 Corinthiens 15, verset 32. Métaphoriquement, cela implique d'engager des batailles avec des puissances méchantes ou étranges qui agissent de manière bestial. Un homme un jour a amené son enfant voir les disciples de Jésus pour la guérison. Marc chapitre 9, à partir du verset 29. La Bible dit qu'il va amener son enfant aux disciples de Jésus pour qu'il soit guéri. Et alors que Jésus était parti avec trois autres disciples sur la montagne, les disciples ont fait toutes sortes de prières. Mais ils n'ont pas trouvé la solution au problème de l'enfant. Ils étaient désorientés,
comme c'est le cas lorsque vous vous engagez dans des batailles que vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. On est désorienté. Et lorsque Jésus est revenu de la montagne, il a abordé le problème et l'enfant a été délivré. Ses disciples vont donc lui demander pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon dans la vie de cet enfant. Et Jésus de leur répondre qu'il s'agissait d'un cas particulier. Un cas particulier. Et qui ne pouvait être traité par un simple commandement, sauf par le jeûne et la prière. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, le cas du garçon est une question de la fondation. Et vous devez comprendre et avoir ce qu'il faut pour mener de telles batailles. Alléluia. Parfois, certaines batailles étranges dans ta vie vont trouver la solution uniquement dans le jeûne et la prière. Uniquement dans le jeûne et la prière. Uniquement. Je vous ai raconté comment, 3 années de suite, j'ai échoué le bac. Et un matin, j'avais une camarade qui a échoué la première année avec moi. Et la deuxième année, on était enfants de Dieu, on était au groupe biblique ensemble. Elle a jeûné toute l'année scolaire pour son bac. Moi, chaque après-midi, j'étais à la cantine. Je mange, je ne comprends pas mes combats. Amen. J'étais intelligent, j'avais de bonnes notes, mais on arrive au bac, tout tombe. Et l'année-là, quand on va au Babia, son nom était, elle s'appelait Mafou, quelque chose comme ça, je me souviens. Et je ne comprenais pas pourquoi elle était tout maigrichonne comme ça toute l'année. On dit, allons à la cantine, elle dit, non, je suis en jeûne. Chaque jour, un an d'école. Et l'année-là, on a vu son nom, elle avait le bac, moi, mon nom n'était pas. Je dis, c'est le principal de l'école qui est venu regarder mon nom. Quand le principal d'une école vient regarder ton nom, c'est que ton cas est grave. Il regarde, il ne voit pas mon nom. Il dit, mais ton problème, c'est quoi? Je ne pouvais pas expliquer pourquoi je n'avais pas le bac. Amen. Je n'arrivais pas à comprendre. Et j'ai dit à ma soeur, mais comment? Comment tu as fait? Elle me dit, mon frère, j'ai compris mes batailles. J'ai jeûné toute la nuit. Elle dit, mais il fallait me dire. Alléluia. Tu dois comprendre le type de bataille dans lequel tu es et payer le prix qu'il faut pour remporter la bataille. Alléluia. Et payer le prix. Et cette année-là, elle a eu le bac. Moi, j'ai dû attendre 2 ans encore. 2 ans encore d'échec. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est chaud à côté de moi, ça ne me dérange même pas. Je dis, courage. Tu es un général. Alléluia. Je dis, courage, ça va aller. Tu vas finir par avoir. On ne rate pas le bac. On rate la session. Amen. Chaque année, il y a une nouvelle session. Et on compose le bac là. Tu es venu trouver le bac. Tu vas partir laisser le bac là. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, il y a quelques années, un garçon a été confié à un pasteur. Il ne pouvait s'empêcher de s'arracher les cheveux. Son problème est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'arracher ses cheveux pour les manger. Laissons même l'autre. Je connais un autre témoignage. Ça, c'est l'apôtre Robert. Il a prié pour une dame qui mangeait du savon. Chaque fois qu'elle était stressée, elle mangeait le savon. Elle mangeait le savon. Chaque fois qu'elle était déprimée, elle mangeait le savon. Il y a des problèmes ici bizarres. Il y a les gens, quand ils ont le stress, ils ne gèrent pas comme toi. Cet enfant, il a arraché ses cheveux, il les mangeait. Une force invisible à l'intérieur le poussait à s'arracher les cheveux et à manger. Et lors de service et prière, le Seigneur a dirigé l'homme de Dieu vers une sœur dont quelque chose dévorait les cheveux au centre de la tête. Et lorsqu'il a versé l'huile d'onction sur le centre de sa tête, elle a réagi très violemment par des manifestations. Après un certain temps, elle est revenue avec un témoignage incroyable. Selon elle, pendant plus de 10 ans, ses cheveux au niveau du centre n'ont pas pu pousser parce qu'elle avait rêvé d'un serpent qui les avait dévorés.
Alléluia.
Amen. Parfois, bien-aimés, nous ne comprenons pas certaines batailles. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a quelques années en arrière, je crois, mon fils Dan, il avait peut-être 4 ans, il avait peut-être 5 ans ou 6 ans comme ça. Je n'avais pas encore compris tout ce que je comprends aujourd'hui. Alléluia. Il s'est levé un matin et on avait rasé sa chevelure. Et on avait rasé. Et sa mère s'est rendue compte. Sa mère a dit, l'enfant, j'ai dit non. Comme lui, il bougeait beaucoup. J'ai dit non, il a dû prendre une lame. Hein. Lui-même, là, il est capable. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre ton enfant. Alléluia. J'ai dit aux parents, il faut comprendre ton enfant. Il faut comprendre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Et donc, il s'est levé et j'ai donc demandé qu'on aille chez un coiffeur, qu'on coupe tous ses cheveux et on va voir comment ça va réagir. Cet endroit a mis du temps pour repousser. Et aujourd'hui, chaque fois que je reste seul dans la prière comme ça, le Seigneur me ramène à cette période. Chaque fois que j'essaie de comprendre pourquoi il a vécu toutes les catastrophes qu'il a vécues jusqu'à aujourd'hui, j'ai perdu du temps. Alléluia. Et après ce moment, le Seigneur m'a dit, quand je priais pour lui, le Seigneur m'a dit, fais attention à ces choses. Fais attention à ces choses. Fais attention à ces choses. Je n'ai pas pris l'instruction au sérieux. Alléluia. J'ai été un peu négligent. Un peu négligent. Alléluia. Après ça, je le faisais coiffer partout. Après ça, j'ai arrêté. J'ai dit non. On le coiffe partout. Quand ses cheveux étaient à un certain niveau, j'ai demandé maintenant qu'on ne rase plus au ras, qu'on taille à un niveau, on laisse. Alléluia. Mais je crois que c'est à ce moment que l'attaque est rentrée. Et son esprit n'a plus été stable. Alléluia. Il avait 5 ans, 6 ans comme ça. Et 2 ans plus tard, on a commencé à entrer dans beaucoup de catastrophes avec lui. Alléluia. Mes bien-aimés, il faut être vigilant sur ses enfants. Récemment, ma fille Malvina m'a partagé une révélation. Et cette révélation s'est répétée à elle 1, 2, 3 fois. Et ça concernait sa fille. Et je lui ai donné certaines instructions dans la prière. Alléluia. Parfois nous avons l'habitude de croire que non. Ah non, c'est que tu penses mal de ton enfant. Amen. Surtout les mamans, les papas aiment toujours dire que dis donc, tu exagères. Laisse l'enfant aussi grandir. Non. Il y a des choses que les femmes peuvent vivre, mais n'ont pas de mots pour expliquer. Alléluia. Et tu dois être capable de pouvoir discerner que ceci n'est pas normal. Alléluia. Et t'es levé dans la prière. Et t'es levé dans la prière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont sur les tombes de leurs parents décédés déposer leurs enfants. Que maman, papa,
Il vient s'asseoir. Maman, maman, je viens te présenter tes petits-enfants. Quelle maman? Qui a fait ça ici? Qui a amené l'enfant sur la tombe de tes parents? Ou bien d'un parent mort? Pourquoi faire ça? C'est l'esprit de mort. Ça va prendre le temps d'agir dans la vie de l'enfant. Ça ne va pas agir le même jour, hein? Ça va prendre le temps. Et ça va agir. Et quand ça va agir, tu vas pleurer. Parce que ce sont des erreurs que nous avons cru vouloir honorer des personnes qui ne vivent plus, qui sont mortes. Alléluia. Donc, nous n'avons pas fait ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a des indications qui permettent de savoir si une personne va ou est en train de mener des batailles étranges. Les deux premiers, comme nous l'avons vu plus haut, sont le placenta et l'eau du bain. Amen. À la naissance. Il est important que ces deux choses soient traitées correctement et qu'elles ne tombent pas entre les mauvaises mains. La troisième indication, la troisième cause, c'est la malédiction générationnelle. La malédiction générationnelle. Rappelez-vous, Genèse chapitre 49, le verset 3 à 4. Une malédiction va être libérée sur la vie de Ruben. Et de telles malédictions peuvent s'étendre d'une génération à l'autre, même jusqu'à la quatrième génération. Et la Bible nous montre clairement comment la maison de Ruben a vécu cette situation-là dangereusement. Genèse chapitre 49, le verset 3 à 4. Deutéronome 34, nous voyons clairement comment Moïse lui-même revient sur le sujet. Moïse revient sur le sujet. Comme pour dire, bien-aimé, qu'il faut faire attention à certaines paroles qui ont été libérées contre nos vies. Alléluia. Imaginez que vous soyez un descendant d'une telle personne. Vous mènerez des batailles que vous ne comprenez pas. Si ton père a été maudit, ah, si ta mère a été maudite par ses parents, mais, bien-aimé, tu vas écoper ça. Tu vas écoper. Si tes grands-parents ont été maudits, tous ces éléments, il faut les comprendre. Alléluia. Hier, j'ai regardé un film avec Yonkil à la maison. Et l'histoire, c'était quoi? Un fils essaye de tuer son père. Et quand on lui dit, pourquoi tu tues ton père? Il dit, parce que mon père a tué mon grand-père. Alléluia. Et le bandit qui l'engage pour aller tuer son père, lui dit, je pensais que dans votre fratrie, dans votre famille, on s'attaque aux membres de famille. Pourquoi tu attaques ton père? Il dit, mais c'est simple. Mon père, à un moment, a tué mon grand-père. Donc, il est normal que le fils aussi tue le père. Alléluia. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Alléluia. Amen. Une autre cause est le sang qui crie. Le sang qui crie. Le sang qui crie et qui réclame vengeance. Une jeune femme nigériane s'est mariée à l'étranger. Et lorsqu'elle est rentrée au Nigeria, elle est soudainement devenue folle. Alléluia. C'est bizarre, n'est-ce pas? Regardez cette femme qui est venue au Cameroun récemment et qu'on a tuée à Yaoundé là-bas. Elle est venue. Rappelez-vous cette dame qui est venue des États-Unis. Elle est venue visiter le docteur Armel. Elle est morte chez lui. Elle est quittée des États-Unis pour venir faire les soins de ses enfants au Cameroun. Parce qu'aux États-Unis, ça coûte cher. Elle arrive, elle dit, bon, je viens, je salue l'ami de mon mari. Elle vient, elle fait une crise d'AVC. On la porte, on l'amène, elle meurt. Et vous dites que c'est normal. pas normal. Il y a des gens bien-aimés qui ont interdiction de rentrer dans leur pays. C'est pourquoi Jésus a délivré un aveugle. Il lui a dit, ne retourne pas au village. Ne retourne plus au village. Pas comme ça. C'est-à-dire, pour le guérir, Jésus l'a sorti du village. Et après, il a dit que continue. Continue. Il y a des endroits, bien-aimés, lorsque tu rentres, tu deviens une statue de pierre, de sel. Il ne faut pas rentrer. Maman Lotte est rentrée. Tout le monde connaît ce qu'elle est devenue. Une statue de sel. Il y a des endroits que Dieu te délivre. Si Dieu te délivre de cette nation-ci, et qui dit que pas, il dit, oh, mon pays, ça fait quoi? Dieu sait là où c'est bon pour toi. Amen. Si Dieu te délivre de ton village, tu dis que, oh, je vais encore aller au village, pas, tu vas comprendre. Si Dieu te délivre de ta famille, ne retourne plus. Oh non, j'aime. Allez demander à Jonathan. Dieu l'a délivré de son père. Et Dieu l'a positionné auprès de David. Mais l'amour pour son père, il est mort. Il est mort de la mort de son père. Les ennemis de son père venant le tuer. Il était à côté. On l'a tué avec lui. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que il y a un sang qui crie. Quand le sang crie contre quelqu'un, il doit faire attention. Il doit faire attention. Alléluia. Une autre cause qui conduit la vie des hommes vers les batailles étranges, bien-aimés, est lorsque vous avez affaire à la sorcellerie domestique. La sorcellerie domestique ou la sorcellerie familiale. Alléluia. En d'autres termes, la personne qui vous attaque est liée à vous, est proche de vous. Elle est à vous, est proche de vous, et bien-aimé. Oui. Il y a quelque temps, un homme de Dieu faisait des prières de délivrance pour une femme. Et lorsque la prière de délivrance était intense, des esprits se manifestaient dans la vie de la dame. Et à un moment, on a entendu comme la voix de son père. Et son père a dit que lui, il avait vendu son étoile pour briller. Alléluia. Et cette femme, en réalité, a confirmé parce qu'elle ne vivait que malheur sur malheur, catastrophe sur catastrophe. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Alléluia. Je vous ai raconté la dernière fois l'histoire de ce garçon qui avait fait le probatoire 4 ans. Il n'avait pas eu. La 4e année, son père payait toujours, il lui disait courage. La 4e année, on lui a parlé de Dieu. Il a commencé à chercher Dieu dans la prière pour comprendre. Il a eu un songe. Il a vu son père assis sur un trône. Et son père lui disait, personne dans cette famille ne peut avoir le probatoire. Je suis le seul. Il a sursauté, il est allé voir son pasteur. Son pasteur dit, je ne sais pas comment interpréter. Il y a des sons que tu, l'interprétation te dépasse. Amen. Le pasteur dit, va continuer la prière. Tu priais comment? Il dit, je priais pour chercher la cause de mon échec. Il dit, va continuer. Il a pris 7 jours de jeûne. Le 3e jour de jeûne, son père a entré dans la chambre à 5 heures, cogné la porte. Bam! Quel est ce type de prière que tu fais? Si tu continues, tu sors de cette maison. Il dit, mais papa, je prie simplement. Il dit, non, ce n'est pas de bonnes prières. Et il a insisté. À la fin du jeûne, son père l'a jeté dehors. Il est parti habiter chez une tante. Et l'année-là, il a eu le probatoire, son père est mort. Alléluia. J'ai prié pour un jeune homme. dans leur famille, ils étaient tous des alcooliques. Sa mère, ses frères, ses soeurs, tout le monde buvait. Ils connaissaient toutes les augmentations sur les boissons. Ils connaissaient les capsules gagnantes. Alléluia. Le jour où j'ai prié avec lui, je l'ai conduit dans la prière. C'était une fille qui voulait épouser, qui me l'a amenée. J'ai dit, va amener le père de l'enfant. Il est venu, il a donné sa vie à Jésus. Et nous avons prié avec lui. 14 jours de jeûne. Quand j'étais déjà, je ne sais plus à quel, on était peut-être au 10e jour de jeûne. Un jour, il sort de la maison, sa mère était au salon. Toute la famille était réunie, conseil de famille. On dit, assois-toi. Il s'assoit. On dit, on veut te poser une question. Pourquoi tu ne bois plus? La maman, hein? Pourquoi tu ne bois plus? Tu veux montrer quoi? Tu dois boire. Nous tous, on boit. C'est-à-dire que voici un prisonnier qui est sorti de la prison. Les autres prisonniers veulent le ramener en prison. On l'a chassé de la maison. Et c'est là où il s'est rendu compte que, et quand il est venu me partager, je lui ai dit, ceux qui vont arrêter de boire dans votre famille vont réussir. Il dit, c'est vrai, il y a un seul oncle dans sa famille qui est chrétien, que c'est aujourd'hui qui comprend qu'on l'insultait, l'oncle là, que Flocan, tu es entré dans ta secte. Que c'est aujourd'hui que lui-même est dans la foi, qu'il comprend la foi de son oncle. Et son oncle seul est marié dans toute la famille. Il était le seul marié. Bien aimé. Il est allé vivre avec cet oncle. Je n'ai plus de ses nouvelles, mais je sais qu'il est resté dans la foi. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons faire attention. À quel niveau nous sommes? C'est quoi le cinquième? Sorcellerie domestique ou sorcellerie familiale. C'est-à-dire la personne qui vous attaque est proche de vous, est liée à vous, bien-aimé. Parfois, la personne qui vous amène d'une maison de prière à l'autre, à la recherche d'une solution, peut être celle qui est responsable de votre problème. Ah oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'amène d'église en église pour la solution qu'il est exempt de ton problème, hein. Alléluia. Oui. Oui. J'ai connu des cas comme ça. J'ai reçu des gens qui sont venus avec d'autres pour la prière. À la fin, c'était ceux qui les avaient amenés qui étaient à la source de leur problème. Qui était la source. Alléluia. Vous savez, la manière qu'on nous regarde, on dit, ah, il peut faire quoi? C'est quand on prie. Il dit que mais je l'ai amené ou pardon, sort. Pardon, sort. Je t'ai amené là où on va me tuer. Alléluia. Il y a des sorciers cachés dans l'église. Beaucoup. Une autre indication que vous allez mener des batailles étranges et que vous avez subi une dédicace maléfique. Oui, mes bien-aimés. Une dédicace. C'est encore pire si vos parents sont des sacrificateurs dans les sanctuaires ou des adorateurs d'idoles. Alléluia. Regardez l'histoire de Gédéon. Son père était sacrificateur. Il était fils de sacrificateur. Alléluia. Il était fils de sacrificateur. C'est pourquoi nous devons nous lever dans la prière contre toute dédicace que nous avons reçu à la naissance, ou bien pendant notre parcours, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tant que tu ne seras pas délivré, tu ne pourras jamais retrouver ta stabilité. Ta stabilité. Alléluia. Bien-aimé, je décrète sur ta vie tout plan de dédicace. Toute dédicace liée à ton nom, tout dédicat lié à ton sang, tout dédicat lié à ton rang de naissance, est brisé au nom de Jésus. 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 Toute dédicace satanique de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui limite ta destinée, est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Alléluia.